Parlant de choses à ne pas manquer également, Éric Lantier, qui est au bout du fil, lance son livre prochainement, dont je pense que j'ai signé la préface. Ça se peut-tu, ce mois, Éric?
Oui, tout à fait, absolument. Ben oui, on est en la première révision, donc ça va bon train. Il y a des petits ajustements à faire. Et puis, bon, ben prochainement, là, dès que j'ai la date de mon éditeur, je vous le fais savoir. C'est un recueil de mes textes. Donc, il y a deux tomes. Le premier tome devrait sortir avant Pâques.
Okay.
Et ça va être intéressant parce que ça va permettre à des gens de mieux connaître ma pensée, spécialement les auditeurs, parce que je touche 21 thèmes.
Ouais.
Donc, à ce moment-là, parce que on se limite aux sujets en cours, mais il y a des sujets que j'ai approfondis davantage. Fait que ça va être intéressant pour les auditeurs de se procurer ce livre-là prochainement.
Pour ceux qui aiment réfléchir, il y en a encore du monde de même. il y en a qui mettent ça de côté assez vite, puis ils se sentent pas mal non plus. Est-ce que tu as un essai là-dessus? C'est à découvrir. On va attendre la sortie, on va regarder ça. En attendant, on parle du Parti québécois qui est en crise. Là, c'est assez bien connu. Ça s'est radoté au cours de la dernière semaine avec le départ de Catherine Fournier, etc.
Mm-hmm.
Le score aux dernières élections, est-ce que c'est le parti le problème ou si c'est l'option? C'était ta question de préparation hors d'onde. Je te donne une réponse courte de mon cru. Dans ma tête, c'est l'option. C'est pas tant le parti. Si tu rassembles les deux, ce que le PQ a pu obtenir quand ils étaient seuls en liste dans cette option-là, c'est plus large quand même. Si tu rassembles Québec solidaire aujourd'hui puis le PQ, au moins en termes de députés, c'est loin de ce que le PQ a déjà eu. Là.
Tout à fait, parce que tu regardes la CAQ, dans le fond, c'est un PQ sans l'option souverainiste qui s'est adapté à la réalité québécoise.
Ouais.
Fait que, en résumé, là, si on simplifie ça comme ça, en d'autres mots, les Québécois ont dit, ce qu'on veut, c'est, on veut pas quitter l'aspect qu'on est nationaliste, qu'on veut défendre notre identité franco-québécoise, on est fiers de tout ça, pour la majorité du moins, on tient notre langue, on tient certains acquis, on tient à garder notre identité. Donc, le Québécois moyen se retrouve là-dedans. La majorité des Québécois se retrouvent là-dedans. Maintenant, c'est pour ça que j'ai bien aimé le papier de Richard Martineau là-dessus, parce que même si on change de nom, même si on refait un nouveau parti, les mêmes questions vont revenir.
Ah oui.
Est-ce qu'on fait un référendum ou pas?
Ah oui. Est-ce que c'est payant ou pas? François Legault l'a fait, le budget de l'an 1, fait 15 ans. Il a essayé de le vendre. Ça n'a pas marché. Il y avait plus de moyens qu'à l'époque que maintenant, puis pas à peu près. C'est pas aujourd'hui qu'il y aura un regain. Là, j'ai vu Manon Massé dire sa conviction, je pense que c'est la semaine passée, là, que
ouais,
c'est totalement possible à court terme. Voyons donc. Faut qu'ils prennent une petite dose de réalisme, eux autres-là.
Ben justement, j'ai publié un article là-dessus sur ma page ericlantier.net la semaine dernière. Puis l'exemple que je donnais, c'est comme si je veux te vendre, Guillaume, une maison. Mais je te dis, avant de voir les photos, puis avant de voir qu'est-ce qu'elle va de l'air, achète-la.
Ouais.
Une fois que tu vas l'avoir acheté, là, tu vas pouvoir la visiter, puis me dire si tu l'aimes.
Exact. Et en plus, il y a eu une coalition, un bon moment. Le Parti québécois regroupait des gens de plein d'horizons, de plein de spectres politiques. Tu sais, des gens Garon, anciens créditistes, avec des Claude Morin, de centre droit, pas pire, sinon de l'autre côté, des Pierre Bourgault qui militait, même s'il n'a pas été ministre. Mm-hmm. Tu sais, là, c'est totalement là, c'est écarté.
L'Union nationale aussi.
Ouais. Voyons.
Monsieur Biron.
Rodrigue. Et voilà, je cherchais ça, etc. Puis, c'est fini. Ça aide pas le PQ. Est-ce qu'il y a de la place à droite au PQ? Est-ce qu'il y a de la place à droite au Québec, à droite de la coalition Venir Québec? C'est une question que tu te posais dans notre préparation. Je te laisse commencer à amener des pistes de réponse.
Ben moi, ce qui m'a fait réagir, c'est que Youri Rivet a été cité par Le Devoir. Puis lui, il dit, Youri Rivet, la seule droite qui marche au Québec, c'est la droite nationaliste. Puis il n'y a pas tort. Puis
ouais.
C'est malheureux parce que quand René Lévesque est arrivé au pouvoir en 76, les gens disaient, oh, la social-démocratie, le Québec va devenir communiste. Puis là, on va devenir comme la Russie. Puis les gens avaient peur.
Puis là, le call ces temps-ci, c'est comme le Venezuela.
Oui, c'est ça.
Aux États-Unis aussi, c'est cité souvent.
Ben oui, c'est
comme
ça.
Si vraiment on voulait s'approcher de ce modèle-là, quiconque, ici, même Québec solidaire, ils voient bien que ça ne marche pas.
Non, c'est ça. Mais la droite, elle crée un peu cette réaction-là. Maintenant, on l'a vu avec Stephen Harper, qui a essayé de tirer la couverture un peu plus vers la droite. On n'est pas devenu un pays ultra-capitaliste, là, sauvage. On n'est pas devenu un pays où est-ce que tout était privatisé puis il n'y avait plus de place pour le citoyen. Bien au contraire, l'économie s'est bien portée. Et on a passé au travers une crise mondiale.
Ouais.
Maintenant, est-ce que les Québécois se retrouvent dans la CAQ, spécialement les Québécois de droite? Et là, les Québécois de droite se disent « Ah, ils sont encore au centre comme les libéraux. »
Alors, de voir le budget, parce qu'on sera probablement toujours les plus taxés en Amérique du Nord, même s'il y aura des allègements de surface.
Mm-hmm.
Les gens, par exemple, ont peur de que ça soit trop extrême. Les gens de droite vont dire « Bon, telle affaire de la CAQ, ça m'énerve, telle affaire, ça m'énerve. » Mais en gros, ils sont réalistes pour aller chercher le pouvoir, fait qu'on appuie, on vote, puis on n'ira peut-être pas lever des pancartes pour eux, mais on est content. Si c'est le Parti conservateur, ça vient avec des candidats ultra-religieux, ça vient avec des positions orthodoxes de droite, bizarrement, difficilement applicables au Québec, un peu trop, tu sais, puristes. Alors, il doit y avoir un entre-deux, peut-être que c'est au PCQ de se rapprocher du centre dans certains enjeux, puis de mieux faire des communications, simplement, pour que l'option plus de droite se popularise.
Oui, tout à fait. Puis je crois que la CAQ, ce qu'elle va faire, elle va essayer de gagner la faveur des Québécois en début de mandat, essayer de plaire. Puis en fin de mandat, elle va démontrer qu'elle a été capable de faire un certain nettoyage des finances publiques. Puis elle va demander un deuxième mandat pour dire, ben pour aller plus loin et faire une meilleure job, ça nous prend un deuxième mandat. C'est écrit dans le ciel, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais s'il peut y avoir un ménage, puis si on peut être plus efficace au niveau de la fonction publique, plus efficace spécialement au niveau de la santé, je pense que là, la CAQ va marquer des points et elle va être là pour durer longtemps. Le défi, à mon avis, là, c'est la gestion puis de trouver des solutions pour que notre système de santé roule mieux, soit plus efficace. Avec les moyens qu'on a, avec les ressources qu'on a, c'est incompréhensible d'arriver avec le résultat qu'on a depuis les 30 dernières années.
Attends, c'est assez facile à expliquer. Dans la santé, les pousseux de crayons, tu compares avec la Norvège, un pays aussi populeux que nous autres, on a le double. Dans la santé, on a quasiment 100 000, ils n'en ont même pas 50 000, des fonds de la santé. Et là, je sentais la gang à Legault prêt à sabrer des choses comme ça il y a quelque temps. Ils ont rapetissé ces ambitions-là, ils ont amenuisé ce discours-là un peu. Peut-être qu'ils ont encore ça derrière la tête, espérons qu'une fois en place, en selle, ils vont aller en ce sens-là. Ça reste un espoir que je pense qui est assez ambitieux de mon côté. On verra, le budget s'en vient quelques jours seulement. Et on va leur laisser peut-être un an aussi de plus, là. Ça fait juste quelques mois qu'ils sont là. Ouais. J'avais hâte de te parler sur un autre dossier, Éric, excuse-moi de t'interrompre, à moins que tu avais une petite finale. Les cellulaires en classe, l'Ontario a banni totalement la patente. Je pense pas que ça soit très répandu que pendant ton cours au secondaire au Québec, tu peux envoyer des textos, là. Est-ce que tu as le droit de l'amener? Comment tu abordes le sujet des cellulaires en classe, toi, un ancien directeur d'école?
Ben, moi, j'aimais l'approche de l'Ontario en disant pas de cellulaire en classe parce que c'est une source de distraction. Écoute, ça augmente le temps d'exposition à l'écran, ça invite à tricher. C'est vraiment une distraction. Moi, j'ai enseigné, j'ai pas juste été directeur d'école, j'ai enseigné, je peux vous dire une chose, c'est très distrayant, autant pour l'élève que pour l'enseignant, d'avoir des cellulaires. Par contre, ce que j'aime, c'est lorsque les enseignants vont solliciter les élèves, vont dire, OK, apportez votre téléphone, votre appareil, faire des recherches.
Ben oui, va s'en servir dans le bon sens, c'est une autre histoire. Que ça soit banni en général, puis qu'on l'accueille à l'occasion, c'est le meilleur mix, parce que c'est un outil dont on peut plus se passer en 2018, 2019, puis faut apprendre à s'en servir le mieux possible.
Là. Exactement. Et c'est là que ça devient stimulant, parce que lorsque l'enseignant dit à sa classe, « OK, demain ou dans deux jours ou au jour quatre, vous apportez votre appareil. » Là, c'est comme c'est le party, c'est le fun. Puis là, ça permet à l'enseignant de gérer, voir le niveau de maturité, comment il s'en sert. Parce que de l'interdire totalement, ben, c'est antipédagogique. Puis de le laisser aller comme libre à chacun, ben là, ça devient une gestion trop ardue. Puis l'enseignant n'a pas juste à faire à vérifier si l'élève est en train de chanter ou pas.
Ils ont quand même le droit de l'amener dans l'école,
ouais.
De le laisser dans la case. Mais là, la vérification, as-tu une idée de comment ça se fait? Il est faux, il y a l'entrée, comment ça marche? Tu sais?
Ah, c'est pour ça que moi, je préférais une interdiction, parce que la gestion de chaque appareil, chaque élève, c'est long.
Ben.
S'il cache dans ses sous-vêtements, tu vois ça, les
filles,
ça n'a pas de bon sens.
Puis là, ça me fait penser, en plus, chacun, tu sais, tu veux donner un cours sur les cellulaires en général. Il y en a qui vont arriver avec des vieilles picouilles de 2007 avec un flip, puis que ça prend 3 secondes par lettre de texto. Il y en a un autre qui va avoir un iPhone 10. Comment tu peux enseigner avec des outils aussi disparates entre les mains des élèves? Tant qu'à éduquer sur la technologie, ça va prendre les instruments. Les écoles achètent ça, des tablettes. Ça peut être un succès d'année de cellulaire. Fait que, écoute, plus on jase, plus je me dis, faut sacrer ça de voir des écoles. De voir! Comment on écrit ça, de voir?
Là, c'est sûr que ça va toucher le budget de l'éducation, mais idéalement, ça serait que l'école le fournisse et que l'appareil soit comme juste dans le pupitre, là, tu sais, que tu peux pas vraiment le prendre puis le voler, mais tu sais, parce que, c'est comme tu dis, là, tu arrives dans différentes plateformes. Un, par exemple, c'est Apple. L'autre, c'est Android. Là, ça va pas dans les mêmes paramètres, etc. Ça devient complexe. Par contre, il y a des éléments de base en disant, si tout le monde a accès, par exemple, à Google ou accès à Yahoo, mais dit, bon, OK, vous allez me chercher un mot, tel synonyme, le premier qui trouve la définition. Il y a des moyens quand même de composer avec cette réalité-là.
Peut-être.
Mais idéalement, ça serait qu'on ait toute la même plateforme, on est branché sur tout le même réseau, sur le même moteur de recherche, ça facilite la tâche, ça c'est sûr.
Mais là, en voyant cette nouvelle-là aussi, une question que je me suis posée, pour terminer, c'est permis là au Québec, t'es un élève de secondaire 3, tu rentres dans la classe avec ton cell, toi là.
Ben, ça, c'est
il y a des écoles qui l'interdisent.
Oui, c'est ça, c'est laissé à chaque école, puis dans chaque école, même il y a certaines écoles qui vont décentraliser la responsabilité à l'enseignant. Alors, c'est d'une place à l'autre, d'une classe à l'autre, c'est vraiment différent. C'est pas comme en Ontario où est-ce qu'une consigne unilatérale qui touche toutes les écoles. Alors, ça permet un discernement, mais en même temps, ça amène plus de négociations entre l'élève puis l'enseignant, ça c'est sûr.
Mm-hmm.
Parce qu'il n'y a pas une consigne, à moins que la direction de l'école a donné une consigne très, très claire pour toute l'école. Là, c'est sûr qu'il y a de la négociation. Maintenant, quand...
De la perte de temps, ça devrait être tout interdit. Je pense qu'on fait le tour. On fait le tour, on a compris ça, nous autres. Éric Lantier, en quoi? 3 minutes, 4 minutes sur le sujet. Espérons que le ministre actuel peut-être ait ce genre de réflexion prochainement. Merci pour tout ça. On te lit sur ericlantier.net et on peut t'écrire par là aussi, etc.
Absolument. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous autres.
Partagez, mon ami Éric Lantier. Mesdames, messieurs, vous pouvez le contacter également sur sa page Facebook qui est très présent sur les réseaux sociaux.